Alléluia.
Faire la lecture du texte qui va circonscrire notre message. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce qui nous rassemble encore autour de ta parole, pour ton amour infini et pour tous les plans que tu as arrêtés depuis l'éternité pour que nous puissions être semblables à toi par l'effusion de ton esprit. Nous prions que tu nous aides dans cette dimanche de Pentecôte pour que nous puissions célébrer dans la joie, mais surtout dans la méditation, dans la réflexion individuelle, pour que nous puissions recadrer notre engagement et savoir à quel niveau l'Esprit est agissant en nous, à quel niveau il n'agit pas, pour que nous puissions le laisser opérer. Nous prions que ton Esprit agisse, qu'il se manifeste parmi nous, qu'il nous guide, que par ton esprit, nous puissions adresser ce message à ton peuple qui l'écoute et que ce message soit un moyen que tu utilises pour parler à chacun, à chacune de façon particulière pour un but que tu t'es fixé. Nous prions que tu nous aides à voir ceci être atteint. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Nous lisons deux passages, l'un dans Joël chapitre 3 et l'autre dans Actes chapitre 2. Joël chapitre 3, le verset 1 à 5. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. Je placerai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, à l'avènement du jour du Seigneur, grandiose et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En effet, il y aura des rescapés sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit, parmi les survivants que le Seigneur appelle. Acte 2, versets 1 à 15. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et s'imposaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or à Jérusalem résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler en sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient, tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, des Judées et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye céranéique, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés, et quand, dans leur perplexité, ils se disaient les uns les autres, qu'est-ce que cela veut dire? D'autres s'esclaffaient, ils sont pleins de vin doux. Alors s'éleva la voix de Pierre qui était là avec les onze, il s'exprima en ces termes, hommes de Judée, vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille aux paroles. Non, ces gens n'ont pas bu, comme vous le supposez. Nous ne sommes en effet qu'à 9 heures du matin, mais ici se réalise cette parole du prophète Joël. Parole du Seigneur. Bien-aimés, notre message de ce dimanche de Pentecôte est intitulé Quand l'esprit de Pentecôte m'habite, tout change. Quand l'esprit de Pentecôte m'habite, tout change. La Pentecôte est une fête qui se célèbre, comme je l'ai annoncé dimanche passé, 50 jours après la Pâque. D'ailleurs, on l'appelle Pentecôte parce qu'il vient du grec Pentecoste, 50e, pour dire que cette fête se célèbre le 50e jour après la Pâque. Cette fête en soi était une fête juive, mais qui a été christianisée. C'est-à-dire, elle a obtenu un contenu chrétien par l'effusion du Saint-Esprit qui va être donné le jour où les Juifs célébraient la Pentecôte. Cette fête était célébrée comme fête de prémices dans l'Ancien Temps, selon Nombre 28, verset 26, mais aussi comme fête de la moisson, selon Exode 23, verset 16. Mais à la longue, les enfants d'Israël ont commencé à la célébrer comme une fête, comme une célébration du don de la loi sur le mont Sinaï. Le christianisme va donc commencer à célébrer la Pentecôte avec un contenu chrétien, à partir de cette première Pentecôte qui a lieu selon Actes chapitre 2, dont nous venons de faire la lecture. Dans ce cas, depuis ce jour-là, lorsque le christianisme a commencé, donc les chrétiens vont commencer à célébrer la fête de Pentecôte avec comme contenu le fait qu'on a reçu l'effusion du Saint-Esprit. On peut donc comprendre que la Pentecôte va devenir désormais comme un événement fondateur, car l'Église ne vient pas d'un homme, ce n'est pas un fait de l'homme. L'Église n'existe que par le souffle de Dieu, c'est-à-dire par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes ici en face d'un passage qui nous montre le premier moment où l'Église a été constituée. Et cette Église ne vient pas d'un homme, n'est pas d'initiative humaine, mais cette Église vient du souffle de Dieu, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Église à laquelle nous appartenons, ce corps du Christ auquel nous appartenons, tous croyants du monde entier, tire son origine du Saint-Esprit. Et donc l'Église, pour remplir sa mission, ne peut le faire autrement que par l'intermédiaire des membres de cette Église qui sont remplis du Saint-Esprit et parce que remplis du Saint-Esprit sont invités à vivre une vie dont le témoignage vibrant va effectivement aller de Jérusalem en passant par Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, avant l'effusion du Saint-Esprit, nous devons comprendre dans ce message, c'est le premier point de notre message, nous devons comprendre qu'il y a eu quand même le préalable. Qu'est-ce qui s'est passé avant que ces disciples-ci ne soient remplis du Saint-Esprit au point de commencer à parler en d'autres langues et ce qui, ces manifestations de l'Esprit vont étonner les gens. Avant l'effusion du Saint-Esprit, il y a eu quelques préalables. Je dois retenir ici, noter ici que les disciples qui ont eu part au ministère terrestre de Jésus, qui ont été témoins de sa mort et de sa résurrection, et même de son ascension, ont attendu les dons de l'Esprit. Parce qu'il leur avait été dit, je l'ai dit la fois dernière, de ne pas quitter Jérusalem. Parce que la promesse du Saint-Esprit, du don du Saint-Esprit serait accomplie. Ils sont donc restés après l'ascension pendant 10 jours. Ils n'étaient pas dans la distraction pour que l'Esprit vienne tomber sur eux comme à l'improviste. Ils ne sont pas restés dans la contemplation parce qu'effectivement un ange était venu leur dire « Pourquoi regardez-vous le ciel ?» Pourquoi restez-vous là en train de regarder, de fixer le regard sur le ciel? Le Christ, Jésus que vous avez vu partir, allant de cette manière, va revenir de la manière dont il est parti. Donc, ils ne sont pas restés dans la contemplation, étais-je en train de dire. Ils ne sont pas non plus restés dans une certaine attitude d'une grâce bon marché, où on attend quelque chose qui va arriver sans faire quoi que ce soit. Mais ils ont désiré ces jours-là où les dons du Saint-Esprit devaient leur être donnés. Ils ont obéi à l'injonction de leur maître de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Ils ont mis du temps dans la présence de Dieu. Et ce temps, je viens de le dire, ils ont fait 10 jours dans la présence de Dieu. On pourrait dire ici qu'ils étaient comme dans une sorte de retraite, focalisés sur une attente, sur une promesse qui a été faite, mais une attente qui doit se réaliser parce qu'il leur avait été dit d'attendre. Dans ces temps d'attente, ils sont restés en prière, sans aucune distraction. Et ils étaient donc prêts, ils étaient ouverts lorsque le Saint-Esprit va leur être donné. Ils vont sortir de cette chambre le 50e jour, le jour de Pentecôte, véritablement transformés. Je voudrais tirer une première leçon ici. Ce que nos cœurs désirent le plus, c'est ce que Dieu peut nous faire obtenir. C'est ce que nous pouvons devenir, mais à condition que nous y travaillions. Nous puissions y donner de notre temps, mais aussi consentir notre énergie. À supposer que les disciples soient partis, se dispersés dans la ville de Jérusalem, le Saint-Esprit ne serait pas venu sur eux. On n'aurait même pas parlé d'un Saint-Esprit qui est venu, l'effusion du Saint-Esprit qui est venu et qui, effectivement, a rencontré les disciples près. Donc, nous comprenons ici, nous devons comprendre ici que si nous désirons le Saint-Esprit, si nous désirons que le Seigneur nous visite, il nous visitera. Tant que nous ne comprenons pas la nécessité de rester longtemps dans sa présence, notre vie restera une vie ordinaire. Avec rien qui attire, rien qui impacte, rien qui donne du sens, et même à notre présence sur cette terre. La conséquence, c'est que nous ne serons pas élevés au standard d'être des hommes et des femmes utiles à Dieu et aux hommes, parce que nous ne nous sommes pas rendus prêts, nous n'avons pas désiré ce que Dieu veut faire de nous lorsque il nous cherche, il cherche à nous visiter par son Esprit Saint. Beaucoup de gens se contenteront toute la vie d'avoir reçu le Saint-Esprit et de le dire Parce qu'ils disent que lorsqu'ils ont reçu Jésus, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il n'en reste que là. L'Esprit n'opérera dans leur vie que lorsqu'ils vont désirer être remplis du Saint-Esprit. Et il y en a trop peu aujourd'hui qui cherchent à être remplis du Saint-Esprit. C'est lorsque nous déciderons de nous mettre à la disposition de Dieu, à la disposition du Saint-Esprit, à solliciter, à demander, à désirer que l'Esprit vienne nous remplir, que nous commencerons à être utiles à Dieu. Deuxième point, comment donc l'Esprit a opéré le jour de la Pentecôte? Je voudrais rappeler ici qu'avant Pâques, les disciples n'étaient pas porteurs du Saint-Esprit. Jésus était le seul à porter le Saint-Esprit. Il était vraiment le seul à porter le Saint-Esprit pendant tous les 3 ans qu'il a fait avec ses disciples. D'ailleurs, Luc chapitre 4, le verset 18, il est dit, on commence au verset 17, « On lui donnera le livre du prophète Ésaïe, et en le déroulant, ça c'est Jésus, il trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue et renvoyer les opprimés à liberté. Proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Il roula les livres, les rendit aux servants, s'assit, tous dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Donc Jésus, lorsqu'il commence son ministère, selon Luc chapitre 4, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur m'a conféré l'onction pour une mission, laquelle, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, envoyer proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le retour à la vue, et renvoyer libres les opprimés, mais aussi proclamer une année de la grâce du Seigneur. » Lorsque vous lisez les évangiles, vous allez constater que Jésus a trop peu parlé du Saint-Esprit dans son ministère terrestre. Et c'est-à-dire qu'il ne lui accordait pas l'importance. Lui-même étant revêtu du Saint-Esprit, il savait à quel moment, selon l'agenda de Dieu, le Saint-Esprit va venir. L'Esprit, l'effusion de l'Esprit ne devait pas précéder ni la mort, ni la résurrection, ni l'ascension du Christ. C'est donc après l'ascension que l'Esprit est donné. C'est donc du Christ élevé au ciel, assis à la droite du Père, que nous recevons ce plus grand don, l'effusion du Saint-Esprit. L'Esprit, peut-être que je vais prendre cet exemple, mais c'est peut-être un exemple terre à terre, mais qui peut nous aider à comprendre. L'Esprit est comme le spermatozoïde qui féconde l'ovule. Il y a des millions de spermatozoïdes, mais il y a quand même un qui va finalement féconder l'ovule. Et lorsque celui-là féconde l'ovule de la femme, je dois se préciser, l'homme et la femme qui sont en interaction sexuelle ne sentent pas ce qui est en train d'arriver. Ils ne voient même pas ce qui est en train d'arriver. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a les effets de la puissance créatrice de Dieu qui agit dans cette rencontre de l'ovule et de du spermatozoïde pour qu'une vie commence à être formée. C'est de cette manière aussi que lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, on peut se poser la question, doit-il sentir? Non. Mais il y aura des effets. Les effets de la puissance créatrice de Dieu qui agit dans la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule et qui produit une vie progressivement, c'est ça les effets de la vie que Dieu est en train de créer. Permettez-moi de poser une question à chacun ou à chacune de mes auditeurs et mes auditrices de ce jour. La première question serait, est-ce que l'Esprit est en toi? Je suis très sûr que la réponse immédiate qui va venir, tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie vont dire, l'Esprit habite en moi. Et ils ont raison. Mais si je pose une deuxième question, en quoi l'Esprit produit des effets dans votre vie? Il y en a qui vont hésiter à répondre à cette question. Je voudrais vous dire ici que là où l'Esprit habite, il doit produire des effets. Même si on n'a pas besoin de le sentir, mais il faut que cet esprit-là produise des effets visibles, des effets palpables, même des effets qu'on peut entendre, ce qu'on appelle les effets sonores. Donc il y a des effets visibles, mais il y a aussi des effets sonores. Alors comment l'esprit a-t-il opéré les jours de la Pentecôte? L'esprit a opéré par des effets visibles. On a vu des flammèches de feu. C'est ce que le texte nous a dit. On a vu des flammèches de feu qui se posent, qui se séparaient pour devenir des langues de feu qui se sont posées sur chacun des croyants, afin de chacun des disciples qui étaient dans la salle. Ça, ce sont des effets visibles. On a vu des flammes de feu qui commençaient à se séparer jusqu'à ce que sur chacune des personnes qui étaient dans la grande salle ou dans cette maison-là qui a été remplie d'un vent violent, comme les signes du Saint-Esprit. En tout cas, on a vu cela sur la tête de chacun. Alors, ces flammes de feu ne sont pas descendues sur des groupes, mais descendues sur chacun individuellement. C'est quand même révélateur, ça. Non pas sur les groupes réunis, mais sur chacun visiblement. Parce que Dieu a affaire, non pas avec les groupes, fondamentalement, Dieu a affaire avec chacun de nous individuellement. Il y a eu des effets tels que un coup de tonnerre, qu'on dirait comme un coup de tonnerre qui a eu lieu à Jérusalem ce jour-là, parce que la rumeur a circulé comme un feu de poudre. Beaucoup de gens sont venus pour constater ce qui était en train d'arriver, parce qu'ils voyaient aussi les disciples qu'on connaît comme Galiléens, mais qui étaient en train de parler en d'autres langues. Galiléens connus, des Galiléens, c'était des gens méprisables qui ne connaissaient, qui ne savaient ni lire ni écrire. Mais en tout cas, on constate ces jours-là qu'ils étaient en train de parler dans d'autres langues. Il y a là donc des effets visibles de l'Esprit. C'est ce que Joël avait promis en disant effectivement que les gens, ces jours-là, les jeunes gens seront visités par l'Esprit. Même les vieilles personnes seront visitées par l'Esprit. Cet accomplissement, l'accomplissement de cette promesse était en train d'arriver à Jérusalem ce jour-là. Un autre fait déroutant, c'est que beaucoup de disciples, enfin tous les disciples, on les a vus, étaient devenus comme des nouvelles créatures. Parce que Paul, dont on connaît comment il était frustrant, dont on connaît comment il était intimidé et qu'il a dû renier son maître trois fois avant que les coqs ne chantent, ce Pierre-là s'est levé. Lorsqu'on disait que les disciples étaient plutôt ivres de vin, il a réagi en disant, il n'est qu'à 9h du matin, ils ne sont pas ivres de vin. Ce qui arrive, c'est l'accomplissement de ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Ce bouleversement total des disciples qui a eu lieu, aussi bien dans leur manière d'être, en parlant de nouvelles langues, et Paul, Pierre plutôt, en prêchant, en faisant une des plus grandes prédications, la plus grande prédication que le monde n'ait jamais connue, qui a fait 3000 personnes qui se sont converties ce jour-là, c'est qu'il y a eu des effets visibles et palpables du Saint-Esprit ce jour-là. Mais on a aussi entendu les bruits, comme celui d'un ouragan. Ça, c'est un effet sonore. Et le vacarme ou les bruits qui montent dans ces langues multiples. Ce bruit-là qui a été entendu comme un vent violent qui a secoué presque la maison dans laquelle les disciples étaient rassemblés, qu'on a entendu, c'est ça qui a amené beaucoup de gens à courir pour venir voir avec curiosité ce qui est en train de se passer en cet endroit-là. Pourquoi le Seigneur a permis que cela se passe? Pour qu'il y ait des témoins de l'effusion du Saint-Esprit ce jour-là. Troisième point de notre message. Alors, si donc il y a eu des effets du Saint-Esprit le jour de Pentecôte, pourquoi se fait-il, c'est une question, pourquoi se fait-il que l'Esprit opère dans la vie des uns aujourd'hui et n'opère pas dans la vie des autres? Bien-aimé, je souligne directement que l'homme a trois composantes essentielles, telles que je suis ici, telles que vous êtes. Chacun de nous a trois composantes essentielles. Nous avons un corps. C'est la marque caractéristique par laquelle on nous reconnaît, chacun son visage, chacun son teint, chacun sa manière de marcher. Ça, c'est le corps et même la manière de parler. Mais il y a aussi l'âme qui est le siège de l'émotion. Mais il y a aussi l'esprit qui est le siège de l'intelligence et c'est par cet esprit-là que le Saint-Esprit opère. Mais nous vivons une époque la plus difficile que quelqu'un a appelée un grand scandale de notre temps. Cet homme-là a dit que la tragédie qui touche les hommes et les femmes de notre époque, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui, pour la plupart, n'ont pas un esprit chrétien. Ils ne pensent pas chrétiennement. Ça, c'est une première affirmation qui a été faite par une personne. Mais la deuxième affirmation, lors de la dédicace d'un centre de Billy Graham, l'un des plus grands évangélistes que le XXe siècle ait jamais connu, un grand homme qui était secrétaire général des Nations Unies, qui était appelé à prendre des paroles ce jour-là, a dit ceci. Il a dit, croyez-moi, chers amis, l'esprit a de graves ennuis aujourd'hui. Peut-être plus qu'à aucun autre moment de l'histoire. L'esprit a de grands ennuis, plus qu'à aucun moment de l'histoire de l'humanité. Il a ajouté qu'orienter notre esprit vers de solides principes chrétiens, au cœur desquels il est formé et informé, est l'un des plus grands sujets qui peut être considéré. C'est-à-dire qu'il appelle, il fait un appel cinglant en disant qu'il est indispensable aujourd'hui qu'on oriente les esprits des hommes et des femmes, les esprits des jeunes, les esprits même des enfants, vers des solides principes chrétiens. Parce que nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne conséquente que si nous avons des principes. Des principes qui sont fondés sur les Écritures, des principes qui orientent et canalisent et recadrent toute notre vie, de manière à ce qu'au quotidien, nous puissions avoir, dans notre manière de faire, de penser, un esprit chrétien. Sauvegarder un esprit chrétien. Beaucoup de gens fréquentent l'église aujourd'hui, lisent aussi la Bible, ils chantent, ils adorent, ils prient, mais ils sont très peu nombreux qui pensent et vivent selon la pensée du Christ. C'est ça le grand drame de notre histoire aujourd'hui. Ils sont nombreux qui pensent porter l'Esprit de Dieu en eux, tout en ayant perdu la soif et la faim d'être remplis et conduits par l'Esprit de Dieu. Et donc, ils ne grandissent pas spirituellement. Nous oublions souvent une vérité fondamentale, importante. L'esprit humain, bien-aimé, possède un extraordinaire potentiel. Parce que c'est par l'esprit humain. Ce n'est pas par le corps, ni par l'âme. C'est par l'esprit humain que nous pouvons posséder l'Esprit du Christ en nous. Mais à la seule condition de laisser l'Esprit de Dieu opérer dans cet esprit humain. C'est pourquoi l'auteur de Proverbes dit ce qui suit en Proverbes 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça dit que si nous avons quelque chose, un organe le plus précieux dans notre corps, c'est le cœur. Selon cet auteur, il dit que c'est de ce cœur-là que sortent, que viennent les sources de la vie. Nous devons donc veiller à ce qui entre en nous. Nous sommes comme un ordinateur, en fait, qui emmagasine les données. Alors, ce que nous emmagasinons comme données a de l'influence sur notre manière de penser. Et si notre manière de penser est négativement influencée, notre comportement aussi sera négativement influencé. Nous devons veiller, je le répète, aux données qui entrent dans notre cœur. Ces données-là ont une conséquence sur notre manière de penser, mais aussi sur notre manière de vivre. Voilà pourquoi le psalmiste dit en psaume 101, versets 2 à 3, « Je marcherai dans l'intégrité. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Parce que les yeux aussi, c'est une autre porte d'entrée. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. En tant que chrétien, nous devons veiller sur ce que nous regardons. J'ai l'habitude de dire aux jeunes que lorsqu'on a passé du temps à visionner un film pornographique, on ne peut pas, après cela, adorer le Seigneur. C'est impossible. On a un cœur impur. Ce que nous regardons, ce sur quoi nous concentrons notre attention, a l'influence sur notre manière de vivre. Notre manière de penser, d'abord, mais aussi notre manière de vivre en conséquence. Pour qu'en tant que chrétiens, nous devenions des instruments utiles à Dieu, c'est-à-dire garder un esprit chrétien, il y a un choix à faire. Nous sommes libres, c'est vrai, mais il y a un choix à faire. Et nous devons faire ce choix en toute liberté. Nous devons laisser le Christ être le Seigneur de nos pensées. Déjà, dès les meilleurs moments de la journée, c'est-à-dire dès le moment où je me réveille, je dois faire un effort pour que les premières données qui vont entrer dans mes pensées soient les données qui me garderont tout au long de la journée connectées à Christ. Et pour cela, il y a deux contraintes auxquelles nous devons nous soumettre quotidiennement, dans notre vie au quotidien. La première contrainte, il faut cultiver en nous un esprit programmé par la parole de Dieu. J'ai lu dans un livre un témoignage d'un grand homme qui est devenu un grand dans le service militaire. Mais déjà à 20 ans, quand il était à l'école, quand il était cadet à l'école militaire, il a commencé à lire la Bible. À 20 ans, il lisait chaque année une fois l'Ancien Testament, mais quatre fois le Nouveau Testament. À 90 ans, c'est-à-dire 70 ans après, il était encore en vie. Cet homme-là avait déjà lu l'Ancien Testament 70 fois et le Nouveau Testament 280 fois. Vous comprenez? Quelle discipline! Quelle piété ne pouvait caractériser la vie de cet homme-là? Quelle sagesse les gens ont constaté dans sa manière d'être par quelqu'un qui a lu l'Ancien Testament 70 fois et qui a lu le Nouveau Testament 280 fois pendant 70 ans. Vous voyez donc, ce sont les 70 ans d'une vie très riche. Sa vie était très active, sa vie était très exigeante. Et ce que cela a produit dans sa vie, c'est que les gens étaient émerveillés de constater combien ils connaissaient la parole de Dieu. De constater à quel point cette connaissance de la parole de Dieu a influencé vraiment de façon conséquente, tous les aspects, toutes les facettes de sa vie spirituelle, sa vie familiale et sa vie professionnelle. Nous passons souvent à côté de la plaque parce que nous n'avons pas une vie suffisamment disciplinée. Parce que l'esprit peut habiter en moi, mais si cet esprit-là, je ne le laisse pas opérer, je ne prends pas du temps pour me concentrer sur la méditation, sur la lecture de la parole de Dieu. Cette parole-là, si je la laisse de côté, je n'ai pas le temps pour ça. Je ne marcherai pas avec, je ne vivrai pas une vie remplie du Saint-Esprit. La lumière de la parole de Dieu influe sur les aspects de notre vie. Si nous laissons nos pensées, notre esprit être éveillés et imprégnés par les pensées de Dieu. Ces pensées-là, nous les trouvons où? Dans les Écritures saintes. Mais nous prenons beaucoup de temps à la télé. Quelqu'un a dit, ça m'a beaucoup instruit moi aussi personnellement, il est impossible pour quelqu'un qui passe la majorité de ses soirées, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, à regarder les principaux réseaux de la télévision et toutes les vidéos sur les marchés réussissent à entretenir en lui un esprit chrétien. Donc, ce n'est pas possible. Le temps que la télévision prend, le temps que les vidéos prennent, le temps que les réseaux sociaux prennent aujourd'hui dans la vie de beaucoup de gens, ce temps-là devrait être remplacé par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et nous aurons un autre type de croyants aujourd'hui. Tandis qu'ici, il y a des mesures radicales que chacun de nous est appelé à faire pour que l'Esprit opère dans sa vie. Deuxième chose à faire, nous devons utiliser notre cerveau au service de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il semble que l'esprit humain est plus grandiose qu'un ensemble d'ordinateurs mis ensemble. Parce que cet esprit-là, contrairement aux ordinateurs, même s'il y a une série de 10 ordinateurs qui ont toutes les données, cet esprit humain, à lui seul, a le pouvoir de posséder l'esprit du Christ. C'est-à-dire penser comme le Christ a pensé. Vivre comme le Christ a vécu. C'est encore possible. C'est pas impossible. C'est encore possible. Mais il faut de la discipline. Il faut du temps. Il faut recadrer notre agenda. Penser comme Dieu, revêtir le cœur de Dieu et accomplir les œuvres de Dieu, c'est encore possible. Les chrétiens utilisent moins leur cerveau pour le Seigneur aujourd'hui. Ils sont peu nombreux qui ont déjà fini d'ailleurs à lire toute la Bible après 10 ans, qui prétendent être chrétiens. Ça, c'est incompréhensible. Ils sont peu nombreux, ceux qui lisent les autres livres des croyants, des penseurs chrétiens qui ont aussi écrit. Je dois vous dire que si nous ne lisons pas, nous nous privons de la richesse qui se trouve dans la parole de Dieu, mais aussi de la richesse que les saints des siècles passés ont emmagasiné et qui nous ont laissé. Je vous fais constater que des chrétiens stables, des chrétiens matures que nous avons encore aujourd'hui dans nos églises, même dans notre paroisse, il faut leur demander. Ce sont des personnes qui non seulement ont pris du temps pour lire la parole de Dieu et qui la lisent encore chaque jour de façon disciplinée, mais aussi ce sont des personnes qui ont lu d'autres ouvrages des penseurs chrétiens, des croyants qui nous ont précédés, qui ont écrit, où on a écrit sur eux, et qui ont eu à influencer leur vie. Moi, personnellement, si je suis allé faire les études théologiques, c'est parce que j'ai travaillé à la bibliothèque qui est l'ISTP, qui aujourd'hui est devenue LPG. Je travaillais à la bibliothèque, et pendant ce temps, je lisais beaucoup. Et j'ai beaucoup lu des livres. Pendant que je lisais ces livres, il y en a qui m'ont marqué, qui m'ont même influencé à aller faire la théologie. Pour dire qu'il y a des personnes qui ont écrit qui peuvent influencer notre vie. Il y a par exemple des livres comme L'homme spirituel, Les voyages du pèlerin, dont il y a encore des films aujourd'hui, Connaître Dieu pour mieux le servir, Les tactiques du diable, etc. Beaucoup de ces livres-là, beaucoup ceux qui les ont lus, ont été influencés positivement. Pour le moment, je suis en train de lire un livre intitulé Homme de Dieu, exerce-toi à la piété. Je voudrais terminer ce message en lisant Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Au reste, frères, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui est digne d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, toutes ces choses, que soit l'objet de vos pensées. Vous comprenez que ce passage insiste sur nos pensées qui doivent être portées par ce qui est vrai, la vérité, par ce qui est noble, c'est-à-dire ce qui est honorable. Nos pensées doivent être portées par ce qui est juste, ce qui est pur. Est-ce que tout ce que nous lisons est pur? Est-ce que tout ce que nous voyons à la télévision est pur? Est-ce que ce que nous regardons dans les vidéos est pur? Nous visionnons dans les vidéos. Ce qui est digne d'être aimé, qui est digne d'être adoré, honoré, ce qui est vertueux, ce qui mérite l'éloge, il n'y a que cela en tant que croyant qui doit être l'objet de mes pensées. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller casser vos télévisions, mais je suis plutôt en train de dire que nous devons nous discipliner. Surtout, nous qui avons des enfants qui sont encore trop petits, Ne laissons pas les enfants passer beaucoup d'heures à la télé. Ça détruit leur intelligence, leur force de concentration. Même nous-mêmes en tant qu'adultes, plus vous vous exposez à la télé, vous restez là devant ces images-là, à un moment donné, vous n'êtes plus en mesure de vous concentrer. Il faut donc nous discipliner dans la gestion de ces choses-là. Il dit que toutes ces choses, tout ce qui est vrai, noble, juste, ainsi de suite, soit l'objet de nos pensées. Le mot grec pour parler de l'objet de pensée, ça m'a beaucoup surpris, c'est logizamai, qui signifierait logarithme. C'est surprenant. Une manière de dire que ce qui doit être l'objet de nos pensées doit être une contemplation délibérée et poursuivie. Un peu comme on essaie de résoudre un problème mathématique, on s'y concentre de façon délibérée jusqu'à ce qu'on trouve la réponse. Ce qui doit être l'objet de nos pensées, ce sont des choses vraies, des choses nobles, des choses justes, des choses honorables, des choses pures. Et ces choses-là, nous ne les avons pas ailleurs que dans les Écritures saintes. C'est dans la parole de Dieu où nous devons pencher notre esprit, notre concentration, notre attention, que nous trouverons ce qui va nous aider à vivre une vie qui honore le Seigneur, une vie remplie du Saint-Esprit. Bien-aimés, les disciples qui ont été visités par l'Esprit ont été concentrés pendant 10 jours dans la présence de Dieu. Et ils en ont tiré profit parce qu'ils ont reçu, 10 jours après, selon la promesse qui avait été faite, le Saint-Esprit. Nous sommes donc invités à recadrer notre manière de gérer notre temps, à recadrer comment nous gérons l'Esprit que Dieu nous a donné, qui lui appartient et qui doit lui revenir dans notre manière de le laisser opérer par son esprit, en utilisant cet esprit-là. Dieu nous invite aussi à faire un effort de laisser notre cerveau être utilisé pour des valeurs éternelles, c'est-à-dire par lui seul. Nous devons faire le meilleur de nous-mêmes pour que nous soyons utiles à Dieu, à laisser Dieu travailler à nous par son Esprit Saint. Soyons donc remplis du Saint-Esprit. Et une fois remplis du Saint-Esprit, laissons nos pensées être influencées par les Écritures saintes. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui nous défie et qui nous invite à vivre autrement. Si nous voulons l'Esprit de Dieu opérer dans notre vie, il y a un choix à faire. Un choix délibéré, volontaire, mais qui a des conséquences incalculables dans notre vie lorsque nous nous disciplinons, disciplinant nos pensées, nous concentrant sur des valeurs éternelles et non sur des choses terre à terre. Tu sais, Seigneur, combien il nous est arrivé d'être pris au piège. Nous prions que tu nous pardonnes et que tu nous accordes la grâce de réaliser à quel point, Seigneur, tu nous veux entièrement pour toi, pour que nous puissions être des témoins utiles pour toi, quel que soit le domaine d'activité de chacun de nous. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce, afin que le message que tu as adressé à tes enfants sur ce jour soit un message qui atteigne son but, qui amène chacun à réfléchir sur sa manière de vivre, de gérer son temps, mais de gérer surtout cet esprit sur lequel l'Esprit de Dieu agit, et de te laisser, Seigneur, le gérer pour toi, comme le Seigneur de la vie que tu donnes. Bénis ce message et permets que les résultats et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.